Bonjour, vous écoutez Radio Campus Tours, vous écoutez Parasol et Bord de Loire. Il est précisément 18h16. Nous avons pris un peu de retard et nous vous prions de nous en excuser. Aujourd'hui, je ne suis pas seule dans ce studio, je suis avec nos deux nouveaux volontaires en service civique qui vont se présenter. Bonjour Mathias.
Bonjour, alors moi c'est Mathias.
Voilà, donc Mathias, tu seras notre animateur de l'émission Sortez.
Tout à fait.
Voilà, et nous avons également Kate. Bonsoir Kate.
Bonsoir.
Alors toi, tu seras en charge de la communication.
C'est
et
ça.
Également de Ghetto Blaster.
C'est ça.
Voilà, l'émission musicale. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, nous avons même un invité ce soir. Cet invité, c'est Monsieur Galto. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, est-ce qu'on vous entend dans votre micro?
J'espère.
Ça a l'air.
Oui.
Je pense. Voilà, et Monsieur Galto, quand même, vous êtes venu nous présenter l'IMT, c'est l'Institut des métiers et des technologies pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique. C'est un peu compliqué comme nom et il se trouve que nous sommes proches voisins puisque vous habitez, enfin que l'IMT du moins habite, avenue Marcel Dassault, donc vous êtes bien sur les deux Lyons.
Complètement.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord qu'est-ce que l'IMT? Ça sert à quoi cet institut de formation?
Ça sert surtout à former du monde, des jeunes, des adultes, aux métiers de production des industries pharmaceutiques et cosmétiques. Donc, on va former des gens à fabriquer des médicaments et des produits.
Alors, malheureusement, votre micro ne marche pas très
oui.
bien. Est-ce que vous voudriez attraper celui d'à côté? Pardon, chers auditeurs, c'est les aléas du direct, ça arrive de temps en temps. Allô, monsieur Galto, est-ce que vous nous entendez?
Est-ce que c'est mieux? Oui,
ah, je crois.
Je, crois.
Je vois Kate et Mathias qui opinent du chef, donc c'est que ça y est, tout le monde vous entend. Donc, vous nous disiez que l'IMT...
Voilà, l'IMT est un organisme de formation et nous formons tout public, donc aussi bien des jeunes, des demandeurs d'emploi et des adultes déjà en poste, donc aux métiers industriels, des industries pharmaceutiques et cosmétiques. Donc nous allons former toutes ces personnes à la fabrication des médicaments et des produits cosmétiques.
Est-ce que vous pouvez nous détailler quand même? Parce que je crois sur votre site, on voit qu'il y a à peu près 30 formations qualifiantes ou diplômantes. Est-ce que c'est bien ça? Et qu'est-ce que vous proposez précisément?
Absolument, donc à la fois des parcours de formation initiale, donc ça peut être pour des jeunes qui sont en poursuite d'études. On démarre sur des formations diplômantes de niveau CAP jusqu'au niveau Bac+3, et au-delà de la formation Bac+3, on travaille en partenariat avec l'Université de Tours, en particulier la fac de pharma. Donc des formations diplômantes donc sur ces différents niveaux. Donc fabriquer les médicaments, les produits cosmétiques, c'est très concrètement apprendre à fabriquer des comprimés, des vaccins, des gélules, des pommades, du rouge à lèvres, enfin tout, l'ensemble des produits que l'on peut être amené soit à se voir prescrire côté santé, soit à acheter en parapharmacie ou secteur cosmétique. Donc formation longue, formation diplômante, également formation de reconversion pour des demandeurs d'emploi, et tout un tas de formations un peu plus courtes, là pour les salariés. Donc il s'agit de la formation continue, permettre aux personnes de maintenir leur employabilité, de développer leurs compétences et d'évoluer professionnellement.
Et donc ça veut dire que c'est des formations par exemple qui sont éligibles à certains systèmes d'aide?
Complètement, puisque donc ces formations se déroulent sous différents statuts, elles peuvent se dérouler en alternance. À l'IMT, on peut signer un contrat d'apprentissage, on peut faire sa formation d'apprentissage sur 2 ans. Ça peut être également, je parlais de demandeurs d'emploi, des formations qui sont financées par le Conseil Régional et Pôle Emploi, donc pour les personnes en recherche d'emploi, qui sont parfois en reconversion professionnelle. Et ces formations sont éligibles au niveau dispositif, comme le compte personnel formation, par exemple, qui permet, on ne le sait pas encore beaucoup, mais à chaque personne, dès l'âge de 18 ans, voire même avant, d'avoir droit à un crédit formation et de suivre donc une formation certifiante. Donc formation d'alternance, formation en temps plein, avec des formations qui ont à chaque fois des temps d'entreprise et des temps pratiques, puisqu'on travaille vraiment sur les compétences. Hein, on ne fait pas chez nous de la formation pour faire la formation, c'est vraiment pour apprendre à exercer un métier. Donc l'originalité de l'IMT, c'est notamment la présence à Tours, je vais me vanter un petit peu, hein, mais de 2 usines-écoles uniques en France. Donc une au de Lyon qui est dédiée aux médicaments on va dire aux médicaments classiques, donc médicaments chimiques, et aux produits cosmétiques, et un petit peu plus loin à Tours, donc en partenariat avec l'université, un deuxième établissement qui s'appelle Biocube, où là, rue du Plat d'Étain, donc on va pouvoir, derrière le collège Rabelais, on va pouvoir former les différents publics aux thérapies innovantes, aux médicaments du futur.
Ah, n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions également, n'hésitez pas. Donc moi, je voudrais, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, déjà sur cette école, enfin cette usine école, oui, qui est juste à côté de notre radio, hein, puisqu'on est quand même sur le même quartier des Deux Lions, donc cosmétique et pharmacie. Est-ce donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on utilise exactement les mêmes processus, les mêmes engins, outils, pour faire aussi bien de la cosmétique que de la pharmacie?
Complètement. Complètement. Alors, il y a des matériels spécifiques, puisque je parlais tout à l'heure de rouge à lèvres ou de vaccins, par exemple. Alors forcément, on est sur des produits très différents, avec des matières premières très différentes, des procédés de fabrication très différents, mais on travaille dans des environnements assez similaires. Et puis si je prends un exemple commun, par exemple tous les produits dermatologiques, si on prend des pommades ou des crèmes, que l'on soit à usage pharmaceutique, donc santé ou usage cosmétique, évidemment que le contenu du produit, la matière première sera différente, mais les procédés de fabrication, les équipements seront les mêmes. On a d'ailleurs de plus en plus d'entreprises, y compris sur Tours. Je pense à un laboratoire qui est du côté de Vouvray, qui fabrique à la fois des produits pharmaceutiques et cosmétiques, puisqu'effectivement on est extrêmement proche sur les techniques de fabrication.
Voilà, donc Mathias, tu as une question?
Je me demandais, c'est quoi la frontière,
oui,
entre le cosmétique et le médical? Parce que je pense à des crèmes contre l'âge, des crèmes hydratantes, des choses comme ça.
Alors la réglementation en fait est très différente. Sur la partie pharmaceutique, on doit évidemment, les entreprises doivent démontrer un effet thérapeutique, donc on est là pour soigner une pathologie, une maladie. On est sur des médicaments qui parfois nécessitent 10 à 15 ans de tests et de développement, alors pour ceux qui arrivent à leur terme, hein, puisque il y a à peu près une molécule sur 100 000 qui franchit le cap de l'ensemble des étapes et qui à la fin va effectivement amener une entreprise à mettre sur le marché un médicament. Donc après, tout un tas de phases de tests et d'autorisation par l'État, par le ministère de la Santé, etc. Sur les produits cosmétiques, on doit démontrer quand même beaucoup moins de choses. La réglementation a quand même évolué ces derniers temps sur ce qu'on appelle les allégations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre n'importe quoi et on ne peut pas vous garantir de rajeunir de 15 ans en vous vendant le produit. Donc il faut quand même arriver à démontrer à la fois que le produit cosmétique n'est pas nocif, évidemment, pour la personne qui va l'appliquer, qui va l'utiliser, et puis démontrer effectivement que les effets, les allégations que l'on annonce sont conformes. Mais on est vraiment sur deux spectres très différents, et l'industrie cosmétique a des temps de mise au point beaucoup plus courts. On est plus sur, j'allais dire, du marketing, sur du packaging, hein, je pense plutôt là au côté parfum, etc. Alors que côté santé, on va être vraiment sur des effets thérapeutiques. Et puis, alors même s'il y a de plus en plus de médicaments, je pense, vous avez tous acheté une boîte de paracétamol de Doliprane, que l'on peut acheter directement sans son pharmacien. Voilà, le médicament, la distribution des médicaments se fait quand même encore dans un contexte très réglementé, soit prescription médicale, soit effectivement en pharmacie, sur avis du pharmacien. Voilà.
Et alors, vous nous parliez aussi tout à l'heure pour l'usine école vers le Plat d'Étain, Biocube,
oui,
de médicaments du futur.
Alors, ça m'intrigue.
Voilà, je sens que quelqu'un était intrigué aussi.
Alors, depuis 5 à 10 ans, la recherche a progressé de façon incroyable. Tout à l'heure, je disais que les médicaments chimiques, c'était ce qu'on appelait un petit peu les médicaments classiques, donc nos comprimés, nos pommades, nos sirops, etc. Je vais être un petit peu caricatural, mais j'ai envie de dire que depuis le temps que les chercheurs cherchent, ils sont à peu près arrivés au bout avec les matières premières chimiques. Alors, c'est évidemment pas complètement vrai. On va encore mettre au point de nouvelles formulations. On va découvrir qu'en modifiant la composition d'un médicament, on va pouvoir avoir des effets thérapeutiques pour une autre maladie. Mais aujourd'hui, quand même, on commence à avoir bien fait le tour. Et puis, on est loin de l'image empirique du chercheur dont, sur sa paillasse avec ses pubs à SF. Enfin, maintenant, les modèles, tout se fait informatiquement. Après, évidemment, on passe à des phases de test réelles, mais je dirais on travaille avant tout par informatique. Donc, ça, on est sur les médicaments chimiques qui aujourd'hui représentent 80% des médicaments. Les biomédicaments, qu'on devrait appeler plutôt médicaments biologiques, parce que quand on dit biomédicaments, le grand public pense forcément aux médicaments naturels. Non, c'est pas le sens de biomédicaments. Biomédicaments pour bio comme pour vivant. Là, on va pas travailler à partir de matières premières chimiques, mais on va travailler avec des matières premières vivantes, donc d'origine végétale, animale et de plus en plus humaine, puisque la médecine du futur, c'est, et ça commence, hein, on commence à y arriver, c'est prélever chez un patient une cellule atteinte d'une maladie, d'un cancer, etc., de pouvoir réparer la cellule et pouvoir la réinjecter, la réimplanter chez le patient. Alors là, on en est au tout début, mais plus globalement sur ces médicaments biologiques, depuis 5 à 10 ans, je le disais, la recherche progresse de façon fantastique. Alors, les premiers biomédicaments que tout le monde connaît, ce sont les vaccins. Hein, ça, c'est, ils sont là depuis pas mal de temps. L'insuline, c'est également un médicament biologique. Ça, ce sont les premiers biomédicaments. Mais aujourd'hui, on avance énormément. Il y a deux grandes... Alors, il y en a un peu plus que ça, mais pour simplifier, il y a deux grandes classes de médicaments biologiques. Il y a d'une part tout ce qui va être thérapie génique, culture cellulaire. C'est le premier week-end de décembre, le Téléthon, l'AFM Téléthon. Et tous les dons que font les Français commencent vraiment à aboutir à la mise au point de traitements. Hein. La recherche depuis 5 à 10 ans a vraiment donné des résultats impressionnants. Et donc la fabrication des médicaments aujourd'hui commence et arrive sur le marché. Et puis il y a d'autres types de biomédicaments, de médicaments biologiques. Et là, à Tours, il y a un vrai savoir-faire. Ce sont les anticorps, ce qu'on appelle les anticorps thérapeutiques. Et à Tours, au sein de l'université de Tours, hébergé sur le site de Bretonneau, vous avez le seul laboratoire français d'excellence, qu'on appelle un LABEX, labellisé par l'État, dédié aux anticorps thérapeutiques. Donc il est ce LABEX, il est à Tours, sur le site de Bretonneau. Donc il y a une vraie culture scientifique à Tours, au niveau de la recherche. Je rappelle que la faculté de pharmacie s'appelle Philippe Maupas. CLIEMT a été fondée en 1980 par Philippe Maupas. Philippe Maupas, c'est la personne qui, dans les années 70, était doyen de la fac de pharma Tours et a découvert le vaccin contre l'hépatite B. On pourrait remonter encore plus loin dans l'histoire, mais à Tours, il y a toute une culture scientifique assez importante au niveau du vaccin, du médicament biologique. Et donc, pardon, je suis un petit peu long. Hein. Vous m'interrompez. Hein. Et donc, je le disais, c'est. Voilà, donc ces médicaments biologiques qui représentaient il y a 10 ans 10% des médicaments, aujourd'hui c'est 20% et c'est vraiment en train de se développer parce que je l'évoquais, la recherche fait des pas de géant. Et aujourd'hui, on commence à être capable de soigner des maladies lourdes, des cancers, d'autres types de maladies pour lesquelles il n'y avait aucun traitement. Et ces traitements arrivent. Alors, ces médicaments. On les découvre, ils sont parfois compliqués à fabriquer ensuite au niveau industriel, donc il y a un petit décalage dans le temps entre la découverte et l'arrivée auprès des patients. Et puis ces nouveaux médicaments, ils coûtent très cher, parce qu'ils sont très compliqués, très longs à fabriquer. Juste pour prendre un petit exemple, une machine qui fabrique des comprimés, elle peut fabriquer 300 000 comprimés en une heure. Fabriquer un médicament biologique, ça peut prendre 3 à 18 mois. Donc vous voyez, on est sur des process très longs, donc c'est compliqué aussi à financer. Et puis ça amène des questions... sociétal, quelle santé on veut, est-ce qu'on est prêt à dépenser beaucoup d'argent, est-ce que la société est prête à prendre en charge des traitements révolutionnaires mais qui coûtent extrêmement cher. Bon, voilà, il y a tout un tas de questions qu'il faut se poser. Mais oui, c'est en train d'évoluer fortement.
Je propose qu'on fasse une première pause musicale pour avoir le temps d'affûter nos questions à venir. Voilà, je rappelle que nous sommes... à l'antenne de Parasol et Bord de Loire, avec notre invité, Monsieur Galto, qui est venu présenter l'IMT. Alors attention, Institut des métiers et des technologies pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques. C'est bon,
bravo.
J'ai passé le test.
Validé.
Validé, bon, parfait. Et alors, trêve de plaisanterie, nous allons écouter Aérophone, qui est un groupe de jazz local, je le rappelle. Et nous allons écouter Souris de Poche. Restez avec nous sur Radio Campus Tours, bien sûr. Thank you. Johan Loustalo sur Radio Campus Tour, vous écoutez toujours Parasol et Bord de Loire et je suis toujours en compagnie de mes deux chers volontaires en service civique, Mathias et Kate, et de notre invité, Monsieur Galto, qui vient nous présenter l'IMT. Mathias, est-ce que tu as une question pour notre invité ? Je crois que tu te demandais pourquoi est-ce que la cosmétique et...
Et le lien, en fait, entre la cosmétique et la pharma, parce que du coup, la cosmétique qui était beaucoup plus dans une image et la pharma qui aide à sauver des vies. Et du coup, le lien dans votre école sur les formations.
Alors, c'est vrai que vous venez de le dire, la finalité est très différente, parce que d'un côté, la cosmétique, on est finalement sur un produit de plaisir. Hein. Le consommateur va... Il croit ou il croit pas, c'est parfois comme les marques de vêtements, on a envie de se distinguer ou pas, on a l'impression que, enfin, on est un petit peu dans l'image, dans le rêve. Après, parfois, on peut être convaincu qu'on va rajeunir, hein, ça peut-être que ça arrive, mais c'est vrai qu'on est plus dans une démarche d'achat personnel, voilà, plus dans une démarche de plaisir. Alors évidemment, après, il y a aussi les produits type, je sais pas, tout ce qui est... savon, déodorant, enfin ouais, sans doute des produits dont on est content que les gens consomment utile. Un petit peu utile, merci, c'est le terme que je cherchais. D'un autre côté, effectivement, on est au cœur de la santé. Quand vous avez un mal de tête, c'est une chose, mais quand vous avez quelqu'un de votre famille qui est un enfant ou un parent qui a une maladie, oui, on est sur des questions beaucoup plus cruciales. Alors, c'est vrai que ça peut être surprenant d'avoir des formations sur ces deux univers très différents au même endroit. Les deux univers sont très différents, mais l'étape de fabrication, finalement, est assez proche. La finalité est différente, la réglementation est différente, la manière ou les lieux où on va acheter ces produits peuvent être très différents. Mais si je prends un exemple de produits très proches, les produits dermatologiques, que vous fabriquiez par exemple des pommades, des gels, qu'on soit usage pharmaceutique ou cosmétique, évidemment les matières premières seront différentes. En industrie pharmaceutique, il y aura un principe actif avec donc un effet thérapeutique. En cosmétique, on sera sur des choses qui peuvent être différentes, mais les équipements, les étapes de fabrication sont les mêmes. En revanche, en amont, toute la partie R&D est beaucoup plus longue en industrie pharmaceutique parce que il y a toute une série de tests, d'essais, de démonstrations à faire pour qu'à un moment donné, la haute autorité de santé, les autorités réglementaires décident effectivement que le produit de santé a une utilité, qu'il n'a pas trop d'effets secondaires, et donc on va autoriser sa production, sa fabrication, sa mise sur le marché, et éventuellement, si on considère qu'il a vraiment un effet thérapeutique important, un remboursement partiel par la sécurité sociale. Donc on est sur une durée très longue de mise au point des médicaments. Sur les produits cosmétiques, évidemment, ça peut être beaucoup plus rapide, même si les grands laboratoires font de plus en plus de phases de test, parce que c'est vrai que la concurrence est quand même forte et c'est, voilà, on ne peut pas se contenter de... pour reprendre une expression redevenue à la mode, de vendre de la poudre de perlimpinpin. Sinon, l'effet ne dure pas très longtemps. Voilà, donc la phase amont est différente de R&D. La phase en aval, y compris tout ce qui est réglementaire, est différent, les circuits de distribution, etc. Mais c'est vrai que les procédés de fabrication, les environnements de fabrication, les équipements, sont relativement proches, en fait. Après, c'est le contenu du produit, c'est le mélange, c'est la formulation, c'est les matières premières qui seront très différentes. Et on peut être polyvalent, puisque si je prends l'exemple de notre région, les gens ne le savent pas assez, mais la région Centre-Val-de-Loire est la première région française de production de médicaments, et c'est également la première région française de production de produits cosmétiques, au niveau industriel. Alors, il n'y a pas beaucoup de cosméto à Tours, mais... surtout l'axe ligérien, Blois, Orléans, même si on va jusqu'à Chartres, il y a beaucoup de sites industriels. Hein. Mm-hmm. Au niveau de la cosmétique, tous les plus grands, les Guerlain, les Shiseido, Jemet, Paco Rabanne, etc., ont leur site de production. Plus près à Blois, il y a Procter & Gamble, il y a Francos, il y a différents sites. Au niveau de la région Centre-Val-de-Loire, la première activité en termes d'exportation, c'est l'industrie pharmaceutique, et la deuxième, c'est l'industrie cosmétique. Donc on est dans une région où cette activité représente pas mal d'emplois. Et dans cette région, il y a à la fois des grandes entreprises, je viens d'en citer au niveau de l'industrie cosmétique, au niveau de l'industrie pharmaceutique, on pourrait citer Sanofi, par exemple, à Tours, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises plus petites, ou parfois pas forcément plus petites, mais qu'on appelle des sous-traitants. Donc ces sous-traitants, ils ne vont pas fabriquer leurs propres produits, mais ils vont travailler pour les grands noms de l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Et parfois, ils sont positionnés sur les deux marchés. Donc on va parfois avoir des entreprises qui peuvent fabriquer à la fois pour l'industrie pharmaceutique, à la fois pour l'industrie cosmétique. Alors avec des, là aussi des modes opératoires, des systèmes qualité qui sont différents. Mais on peut avoir parfois la double activité, ça se développe. D'où l'intérêt pour les gens d'avoir une certaine polyvalence et pour les personnes conformes d'avoir une culture un petit peu globale sur les deux secteurs d'activité.
Est-ce que vous pouvez nous citer par exemple une entreprise qui est active sur les deux champs ?
Oui, pas très loin d'ici, vous avez le laboratoire Cheminot à Vouvray, qui historiquement est une entreprise familiale, alors qui a une activité dominante côté industrie pharmaceutique, mais qui intervient, alors pharmaceutique d'ailleurs, à la fois usage humain et vétérinaire, donc santé au sens large, mais également cosmétique. Ils fabriquent également, ils ont également une activité de production pour le secteur cosmétique.
Et donc, il me semble que j'ai déjà entendu parler d'une Cosmetic Valley.
Oui, alors
la Cosmetic Valley. Oui. J'ai pas rêvé.
La Cosmetic Valley, c'est le pôle de compétitivité. Oui, donc, je le disais, l'industrie cosmétique est un point important dans la région. Alors, encore une fois, plutôt à l'est de notre région Centre-Val-de-Loire. Mais il y a effectivement un pôle de compétitivité qui s'appelle la Cosmetic Valley. Et donc, il regroupe la filière cosmétique. Pas seulement régional, au-delà de nos frontières régionales, plusieurs régions de France, donc Centre-Val-de-Loire, Île-de-France, Normandie et même un peu au-delà. Donc ce pôle de compétitivité fédère l'ensemble des entreprises, mais également toute la filière. Donc la partie recherche, la partie académique, donc formation, recherche, les entreprises qui fabriquent, mais également les fournisseurs, les prestataires de matières premières, d'équipements, etc. Donc oui, c'est un pôle majeur en France pour la partie cosmétique.
Et donc c'est quand même plutôt une bonne idée de faire sa formation à Tours, à l'IMT, enfin sans vouloir trop vous faire de pub, mais c'est-à-dire que vous êtes quand même ici dans un bassin d'emploi,
oui.
Voilà, donc oui. Vos étudiants, oui. Est-ce qu'ils ont quand même pas mal de chances de oui. trouver un emploi après ?
Ils ont beaucoup de chances pour trouver un emploi. Parfois, il faut quand même savoir être un petit peu mobile, parce qu'en fonction des niveaux de formation et aussi de ce qu'on veut exercer comme emploi, parce que voilà, il y a différents types d'emplois. Si on est en fabrication, si on veut plutôt travailler en qualité, pourquoi pas en développement, pourquoi pas faire du management, de la conduite de projet. Donc plus on a un objectif précis, plus parfois il faudra peut-être être capable de sortir de Tours et d'aller. Mais si on est mobile et qu'on a envie de travailler dans ce secteur, oui, l'emploi est facile. On est plutôt en manque, en pénurie. Les entreprises recrutent et il n'y a pas beaucoup de formation en France. Hein, donc je suis quelqu'un de prudent, mais oui, je le dis. Si on est mobile et qu'on a envie de travailler dans ce secteur, oui, c'est tout à fait possible, absolument. L'insertion est facile.
Et lorsque vous formez les jeunes, du coup, il y a des méthodes de travail, je suppose.
Oui.
Quand on rentre dans la pharmaco, est-ce que il y a des méthodes de production qu'on pourrait appeler low cost et qui serait différente de celle que vous enseignez, comme ça peut arriver sur la cosmétique par exemple?
Alors pour l'industrie pharmaceutique, non, pas en Europe en tout cas, parce que la réglementation est très, très précise, très forte, donc les règles sont les mêmes. Alors on peut toujours avoir une entreprise, mais bon, ça serait pas forcément, enfin je vois pas trop l'intérêt, qui ajouterait encore des normes supplémentaires, mais on est dans un monde, l'industrie pharmaceutique, qui est ultra réglementée. Tant qu'on n'a pas été immergé dedans, c'est difficile à imaginer. Je vais faire un peu le parallèle avec le nucléaire, hein, c'est aucun rapport, mais pour des questions de sécurité, tout va être ultra procéduré, tout va être ultra normé. L'industrie pharmaceutique, c'est pareil, parce que au bout de la chaîne, il y a un patient. Hein, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein, je dis tout le temps que je vais utiliser une formule un petit peu un peu triviale et caricaturale, mais parfois je dis, lorsque vous fabriquez un poste de télé, si vous avez mal bossé, il y a le service après-vente. Le médicament, de façon un peu brutale, il n'y a pas de service après-mort.
C'est sûr.
Voilà. Donc effectivement, ça impose un peu de responsabilité. Donc non, il peut y avoir des médicaments différents, mais ils ne sont pas low cost. Mmh. On fabrique des génériques. Mmh. Donc effectivement, au bout d'un certain temps, quand le brevet est tombé dans le domaine, on considère que le laboratoire qui avait mis au point le médicament a eu un retour sur investissement pour ses coûts importants de recherche et développement. Mmh. Donc on permet à d'autres entreprises de fabriquer le médicament, même si ce n'est pas eux qui au départ ont mis au point la formule. mais ce médicament générique, il est soumis exactement aux mêmes normes, etc. Donc non, au niveau low cost, c'est pas possible, parce que sinon, vous avez, y a des inspections, hein, aujourd'hui, et les inspections, il y a même ce qu'on appelle les inspections inopinées, c'est-à-dire que vous avez un beau matin des inspecteurs qui vont se présenter au poste de garde d'un laboratoire pharmaceutique sans avoir prévenu, et qui vont venir inspecter. Je peux vous dire que s'il y a un doute, et comme on a connu, pas tant que ça, mais on en a beaucoup parlé, quelques problèmes sanitaires au cours des années, au cours de la décennie précédente, tout le monde, y compris l'État, y compris les autorités, je dirais, de contrôle, ont la crainte de se voir reprocher, on n'a pas assez contrôlé, on a laissé venir sur le marché un médicament qui aurait des effets secondaires trop néfastes, etc. Bon. Donc tout le monde vit un petit peu dans cette crainte. Donc non. D'accord. Résolument, pas de production low cost. En revanche, malheureusement, ce qui se développe, c'est la contrefaçon. Mm-hmm. Ça, on le sait, alors pas forcément beaucoup en France, mais on sait que facilement sur Internet. Et justement, sur le site de Sanofi à Tours, vous avez un des principaux laboratoires d'anti-contrefaçon d'Europe, ici à Tours. Là aussi, on le sait pas, mais il y a un vrai savoir-faire. Pas que pour le groupe Sanofi, hein, pour l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire que quand on a un doute sur un médicament, vérifier effectivement que c'est un médicament fabriqué, comme vous le disiez, non pas dans des conditions low cost, mais dans des conditions de production qui appliquent toute la réglementation européenne, parce que la réglementation, une réglementation américaine, il y a une réglementation japonaise, mais maintenant, même s'il y a des autorités en France, il y a une réglementation européenne qui est commune pour les 27 pays de l'Union européenne. Voilà, donc il y a des contrôles qui sont faits. Et voilà. Mais surtout, n'achetez pas sur Internet, parce que là, pour le coup, non seulement vous allez vous faire arnaquer, mais en plus, vous allez vous intoxiquer.
Eh bien, je propose qu'on fasse une seconde pause musicale, parce qu'il est déjà un peu tard. Après, préparez vos dernières questions, parce que cette émission va déjà toucher à sa fin. Et nous allons écouter le magique Francis Bébé. Nous allons écouter Bissau. En avant, c'est parti.
Pande pana wende be yidi Babi se pande pana wende e boki Balangwe di pande pana weben madiba Balangwe di pande pana okwe di njalala Bisao Balangwe di pande pana wende be yidi Babi se pande pana wende e boki Balangwe di pande pana weben madiba Babi se pone mbana okwe di njalala Bisa o Otitinika Bisa o Usimana wa Bisa o Pande bana wende mwiditi Balangwe di ne bana wende na misodi Babi se pande bana wende na bongo Babi se pande bana unalande songo Bisa o Babi se pande bana wende mwiditi Balangwe di ne bana wende na misodi Babi se pande bana wende na bongo Babi se pande bana unalande songo Bisa o Otitinika Bisa o Usimana wa Bisa o
Francis Bébé sur Radio Campus Tour, vous écoutez toujours Parasol et Bord de Loire. Je suis toujours en compagnie de Kate et de Mathias et de notre invité, Monsieur Galto, qui nous parle de l'IMT. Alors, cette émission va bientôt toucher à sa fin, donc chers volontaires, si vous avez une question subsidiaire à poser à notre invité, c'est le moment.
Moi j'avais une question, bon c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. On en parlait tout à l'heure, mais la frontière entre tout ce qui est cosmétique et pharmaceutique, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu flou parfois? Par exemple, dans les parapharmacies, on va vendre des crèmes pour les rougeurs. Donc ok, ça peut être douloureux une rougeur, etc. Mais c'est aussi pas très agréable à voir pour certaines personnes. Donc elles vont vouloir utiliser cette crème pour soulager, mais aussi pour faire partir la rougeur. Donc est-ce qu'il n'y a pas un peu une ambiguïté
Alors, elle ne l'est pas au niveau des produits, mais c'est vrai que je peux tout à fait comprendre qu'elle le soit de plus en plus... pour la personne qui va aller acheter le produit, pour le consommateur, parce que c'est vrai qu'il y a une volonté de l'ensemble des parties prenantes, hein, à la fois des consommateurs, de l'État pour faire des économies, et peut-être aussi des entreprises en termes de libéralisation du marché. Il y a une volonté de permettre de plus en plus aux consommateurs d'avoir accès directement au produit. Alors on n'en est pas en France au fait, encore une fois, que les... On ne peut pas acheter des médicaments facilement. Hein. Il faut une ordonnance, il faut aller à la pharmacie. Il y a d'autres pays où on peut beaucoup plus facilement les acheter sur Internet. En France, ça commence un petit peu, hein, on y vient. Mais il y a toujours le débat de quand est-ce qu'on peut acheter nos médicaments en supermarché, etc. Bon.
Oui, comme au Royaume-Uni,
exactement, tout à fait, dans d'autres pays d'Europe centrale ou autres. Et bon, alors... C'est vrai que ces produits, et vous pointez du doigt effectivement ces produits un petit peu à la frontière, dont on considère qu'ils ont des effets sur la santé, vous parliez des rougeurs ou autres, bon, des choses pas trop graves, où on considère que l'automédication que la personne peut elle-même, je dirais finalement, aller acheter son produit, et puis un produit qui n'a pas d'effet a priori nocif, sur la personne, parce qu'encore une fois, si le produit devait être pris dans des cas très particuliers, bon, forcément là on doit passer par le médecin et le pharmacien en termes de distribution ou au niveau hospitalier, mais c'est vrai qu'il y a la volonté de dire, là aussi pour faire des économies à la société, de dire il faut qu'il y ait de plus en plus de produits qui seront en libre accès, ce qu'on appelle donc les OTC, donc l'automédication. Et effectivement, pour le consommateur, oui, on se retrouve un petit peu dans un flou. Est-ce qu'on est dans un produit de confort, un produit de santé? Mais ces produits répondent tous pourtant à une définition bien précise, à une autorisation bien particulière. Bon, on peut se dire aussi, je vais être caricatural, mais s'ils sont en libre-service et qu'ils ne sont pas trop dangereux, peut-être qu'ils sont aussi un peu moins efficaces parfois. Mais il ne faut pas prendre ce que je viens de dire au pied de la lettre, parce qu'il y a quand même, bien sûr, je parlais tout à l'heure du paracétamol, on peut tous aller acheter notre boîte de Doliprane. Comme tout produit, il y a une dose létale, et si on consomme trop, mais j'ai envie de dire c'est pareil pour l'eau, vous buvez 10 litres d'eau, vous avez atteint une dose létale, hein, selon les personnes, c'est entre 8 et 12 litres. Forcément, le corps ne peut plus suivre et il y a décès. Voilà, donc tout produit pris en quantité importante peut être dangereux. Voilà, mais oui, pour ce qu'on appelle la bobologie entre guillemets, c'est vrai qu'on est un peu à la frontière, c'est vrai.
Parce que je trouve qu'il y a quand même des marques, bon, si je peux en citer quelques-unes, La Roche-Posay par exemple, c'est quand même, bon, c'est une marque, on peut dire que les crèmes qu'elles font c'est plutôt côté esthétique,
oui,
mais comment dire, il y a des comme cliniques qu'on retrouve dans Sephora, des choses comme ça, c'est un peu la même chose, mais je trouve que la Roche-Posay, c'est quand même plus... je sais pas si c'est le packaging ou si c'est le fait que c'est en parapharmacie, ça donne plus l'impression que c'est pour la santé. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve qu'il y a une différence entre les crèmes qu'on peut acheter de Chanel et la Roche-Posay. Voilà.
Alors, là, je saurais pas répondre précisément parce que j'achète pas tous les jours des,
des crèmes. Moi non plus, je vais sur Chanel.
Je plaisantais, mais. Mais bon, en tout cas, la Roche-Posay pourtant se présente vraiment comme un laboratoire cosmétique. La Roche-Posay fait partie du groupe L'Oréal. Donc, eux se positionnent en tout cas officiellement vraiment sur le marché de la cosmétique et pas le marché de la santé. Là où j'ai envie de dire, faut être beaucoup plus prudent. C'est peut-être pas toujours entre la cosmétique et la pharma, c'est entre tout ce qui est diététique.
Oui.
Où là, je dirais encore plus, soyez encore plus vigilants. Il y a une grande vigilance à avoir. Il y a des très bons produits, tout ce qui est nutrition, diététique. Et il y en a des beaucoup moins bons, avec une réglementation peut-être encore un peu moins exigeante. Et là, pour le coup, effectivement, on est dans un secteur parfois où les allégations, les promesses sont un peu limites. On ne sait plus trop si on est dans les faits santé, cosmétique, etc. Donc je prends tout à fait votre remarque, mais j'ai envie de la prendre encore plus pour tout ce qui est diététique, complément alimentaire, où là je pense qu'il y a vraiment une prudence encore plus grande à avoir.
Je suis assez d'accord là-dessus.
D'ailleurs, il y a un néologisme qui est alicament, mélange de aliments et médicaments, donc cette espèce de confusion en fait qu'on entretient sciemment en fait chez le consommateur.
Oui, parce que on disait tout à l'heure que la cosmétique c'est une démarche personnelle de quelqu'un qui a envie d'acheter du rêve, voire du luxe, voire un confort, une forme de plaisir personnel, parfum, autre, produits esthétiques, produits cosmétiques, compléments alimentaires, diététiques, on va aller un petit peu sur le même type de démarche, pas forcément le luxe, mais on va attendre des effets physiques ou autres, nutritionnels, avec une réglementation qui là aussi est beaucoup en train d'évoluer, mais qui a évolué peut-être plus tardivement. Donc autant dans les laboratoires cosmétiques, grosso modo, je dirais on a des gens sérieux qui respectent une réglementation précise. Compléments alimentaires, diététiques, la frontière est parfois encore pas complètement figée. Donc il y a un peu plus de vigilance, savoir, attention à ce qu'on achète. Et même si je suis un pro du web et d'internet, attention à ce qu'on trouve en ligne.
Et bien sur ces bonnes paroles, nous allons devoir déjà couper court à cette émission. Je rappelle, Monsieur Galto, que vous êtes venu nous présenter l'IMT, Institut des métiers et des technologies. Voilà, industrie pharmaceutique et cosmétique. Ouh là là, les lunettes ne sont plus à jour. Et voilà, votre lieu de formation est situé au de Lyon, on le rappelle. Et c'est trop tard cette année pour les formations.
On peut encore, il y a encore quelques places, notamment sur le bac plus 3 en bioproduction, biotech santé. Et puis j'ai envie de dire pour les gens qui veulent en savoir plus, on fait une porte ouverte par mois. Donc vous pouvez aller sur le site internet ou nous passer un coup de fil à l'IMT au de Lyon. Et vous pourrez visiter les deux plateaux, les deux laboratoires. Ça permettra de voir concrètement ce qu'on fait et puis de voir si ça vous intéresse ou pas. Mais il y a encore quelques places, quelques formations, c'est encore possible.
Ah, bons entendeurs. Merci également à nos deux volontaires qui sont arrivés aujourd'hui. Vous verrez leur tête sur les réseaux sociaux. C'est Kate et Mathias. Bonne soirée à tous. C'est l'heure de notre émission consacrée au développement durable et à bien d'autres choses qui s'appelle Au champ des possibles. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Tours, bien sûr.